Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. Comme vous le savez, à chaque épisode, on rencontre des parents, des professionnels ou des jeunes qui viennent s'exprimer sur leur point de vue. En partenariat avec le GAMS, nous allons entamer la deuxième série de consentement. Et tout de suite, je vous propose de faire connaissance avec mon plateau. Salut Manon, comment tu vas ?
Salut, merci beaucoup pour l'invitation, ça va, super.
Alors, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Ouais, carrément. Donc moi, c'est Manon Descamps et je suis chef de projet régional au GAMS. Peut-être pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une association qui lutte depuis 40 ans contre les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés et les pratiques traditionnelles néfastes.
Super, merci. On continue tout de suite avec Kadiatou.
Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Kadiatou.
Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire si tu es maman, pas maman, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Oui, alors je suis responsable d'un service social, donc j'encadre une équipe d'assistantes sociaux, aussi d'éducateurs spécialisés. Et je suis maman de 3 enfants, voilà, de 5 à 12 ans.
Merci Kadiatou, merci d'être venue d'ailleurs. Diariatou, comment tu vas ?
Bonjour, oui ça va.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Je suis Diariatouba, je travaille dans le social et j'ai 2 enfants, âgés de 8 ans et de 4 ans.
Combien d'enfants ?
2.
Ok, merci Dariatou. Ouri, tu nous fais l'immense plaisir de quitter ton 77 profond. Comment tu vas ?
Bonjour, pas si profond que ça, 20 km seulement.
C'est déjà beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Alors, je m'appelle Ouri, je suis mère de 3 enfants, âgée de 33 ans à 16 ans. Et je suis responsable politique de la ville pour la collectivité de Roissy-en-Brie.
Merci Ouri. Martina, comment tu vas Martina ?
Je vais très très bien.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, enchantée. Donc moi je suis allemande à la base et j'ai travaillé 35 ans dans les services sociaux, dans protection de l'enfance, dans des structures. J'ai aussi ouvert une structure pour fratrie. Et donc d'abord j'étais éducatrice spécialisée auprès de maman. Maman de 14 ans à 21 ans. Et ensuite j'ai encadré les personnels, donc aussi éducateurs, etc. Et donc j'ai rencontré beaucoup de familles et ça me passionne.
Est-ce que tu es maman, Martina ?
Non.
Non ? Tata, peut-être ?
Oui.
Ouais, tu as des 2 nièces.
Oui,
okay.
Oui, bien sûr.
Donc, ça te fait un lien de parenté. Et de toute façon, comme on le dit toujours, tout le monde a son mot à dire quand il s'agit d'éduquer les enfants de façon collective. Salut Nina, comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, ça va très bien. Ce matin, on était dans Raconte ta parentalité. Tu t'étais présentée, mais est-ce que tu veux bien le refaire pour nous ?
Toujours Nina, 23 ans bientôt. Et je suis une jeune entrepreneuse.
Merci, merci Nina. Stéphanie, comment tu vas ?
Ça va. Alors Stéphanie, je suis maman d'une fille de 17 ans et je travaille à la Cour nationale du droit d'asile en tant que greffière.
Merci Stéphanie. Et puis on les présente presque plus, nos chroniqueurs. Barberie chez Bouba, comment allez-vous ? Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Moi j'ai peur déjà. On est beaucoup là aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui on est beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe ?
Victime de notre succès. Allez, présente-toi Anne.
Barberie, animateur, chroniqueur, producteur d'émissions sur Internet, à la radio et cofondateur de l'entité Sopark.
Papa, à tes heures perdues ou pas ?
Non, à plein temps.
Combien d'enfants ?
2-3 enfants.
Ok, Bouba, comment va Bouba ?
Pour la première partie de sa présentation, comme lui.
Puis, les jumeaux.
Voilà, et puis je produis le programme Disons-nous les choses. Et papa de 2 enfants, 15 ans et 8 ans.
Bah écoutez, merci. Effectivement, on est nombreux victimes de notre succès, mais ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va parler du consentement. Avant même de se lancer dans la thématique, est-ce que vous voulez bien le définir ? Selon vous, qu'est-ce que le consentement ? C'est quoi ? Lancez-vous.
Bah, consentement, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, c'est donner son accord.
Stéphanie ? Pour toi, quand tu entends consentement, à quoi tu penses ?
Ouais, je rejoins Anne, bien sûr, c'est être d'accord.
Les autres ? Consentement, quand vous entendez consentement, c'est pas évident, hein, parce que souvent, le consentement à toutes les sauces, mais de quoi il s'agit réellement ? quand on parle de consentement, il y a donner son accord, mais dans quel cas?
C'est l'accord par rapport à sa propre personne, sa dignité, son âme, son corps.
Exactement. Manon, toi qui es sur justement les violences, quand tu entends consentement, ça fait écho à quoi pour toi?
Bah justement, là par rapport, si je parle dans le cadre de l'ensemble du GAMS, c'est ce qu'on va dire en sensibilisation, que justement notre corps nous appartient. Et donc que c'est pas que les mutilations sexuelles féminines ne peuvent pas du tout être acceptées parce qu'on touche à notre intégrité et c'est notre corps et on a un droit dessus. Et donc on a le droit d'exprimer si on est d'accord ou pas, que ça soit dans plein de cadres différents. Donc voilà, nous c'est vrai que le consentement ça fait écho à ça dans nos sensibilisations.
Exactement, donc il y a le consentement vis-à-vis du corps. Je vais donner une petite définition pour que tout le monde entende bien la même chose. Le consentement implique que la personne doit être capable de donner son accord. L'acte de consentir, c'est pouvoir comprendre, être autonome et être libre dans sa décision. La personne doit avoir 15 ans, c'est l'âge légal, ne pas être endormie, inconsciente, ne pas être alcoolisée ou droguée. Et ça c'est rentré vraiment dans le cadre juridique depuis le 8 septembre 2023, puisque avant, il y avait des nuances qui faisaient que des fois, on partait du principe que tu étais consentante, alors que si je suis alcoolisée, si je suis dans un état second, si je dors, et c'est important de dire si je dors, puisqu'on va parler aussi des rapports conjugaux. Si je dors et que tu me fais faire des choses ou que tu me fais des choses alors que je dors, clairement, je ne suis pas consentante. Et ce n'est pas parce que je dors près de toi que je consens à avoir une relation sexuelle avec toi tout le temps. Du coup, on a mis les pieds dans le plat, dans la tasse, dans le sens où la semaine dernière, on a beaucoup parlé du consentement vis-à-vis des enfants, des jeunes enfants. Et aujourd'hui, on va peut-être se concentrer aussi justement sur les adolescents, sur les adultes, le consentement dans la vie de tous les jours, dans la vie maritale, dans la vie de couple, mais aussi avec les collègues des fois, parfois. Donc, ma première question, elle va être comment parler de ce sujet-là avec les jeunes, mais aussi entre adultes. Parce que du coup, on rencontre des femmes qui, la notion de consentement n'est pas acquise, et du coup, sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles sans même le savoir. Houri, est-ce que tu te lances?
Comme tu viens de le souligner, il y a certaines personnes, je pense, qui ne sont même pas conscientes qu'elles ont droit d'avoir un consentement culturellement, parce qu'elles n'ont pas le droit à la parole, elles n'ont pas le droit d'être, d'exister. Et donc, avoir conscience que le consentement, c'est l'approbation en âme et conscience. L'approbation, comme l'a dit madame, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses pressentiments à soi. Donc, il faut peut-être commencer par une sensibilisation par rapport à ça. Faire prendre conscience, là, je parle des jeunes femmes ou des enfants, qu'ils ont le droit de dire non, ou en tout cas de ne pas être d'accord avec un acte posé ou avec une parole dite.
Ouais, merci, Houri, pour ça. Kadiatou.
Oui, alors pour moi, dans la question du consentement, c'est aussi la question du respect, en fait. Je pense que c'est clairement important de parler du respect de l'autre, du respect de son intégrité, excusez-moi, du respect aussi de sa personnalité, de ses choix. Et c'est vrai que sur la question du consentement, je pense qu'en fonction de là d'où l'on vient, en fonction de l'éducation aussi qu'on a reçue, l'éducation que les parents aussi ont reçue, c'est une notion qui, parfois, n'est pas du tout à l'ordre du jour, puisqu'on est dans un rapport un peu adulte-enfant. Enfin, il n'y a pas la réciprocité. Je pense que quand on parle de consentement, il y a une question de réciprocité à un moment donné qui est un peu celle de se dire l'autre, il a aussi son savoir, il a aussi sa capacité de répondre et de donner son avis. Voilà.
Nina, quand on dit consentement, jeunesse, sensibilisation, est-ce que pour toi, il y a une façon dont on peut faire passer le message qui est peut-être à prendre en compte plus qu'une autre?
Oui, en dehors de... en dehors de tout ce qui est théorique ou quoi, je pense qu'il y a aussi, comme je disais la dernière fois, le fait de déconstruire certaines choses et puis aussi le fait d'apprendre aussi aux jeunes à être à l'écoute de soi, à l'écoute de lui-même, de ce qu'il a envie, de ce qu'il ressent, de ce qui... Voilà.
Mm-hmm. C'est très juste ce que tu dis. On a la chance d'avoir deux hommes sur le plateau. Quand on dit consentement, souvent, on est tourné vers les femmes. La sensibilisation est tournée vers les jeunes filles, les femmes. Mais qu'en est-il pour les jeunes garçons et les hommes?
Que dire? Moi, je pense que ce monde a un problème avec les femmes, dans un premier temps, parce qu'il est dirigé par des groupements d'hommes qui, selon moi, sont des misogynes notoires. Il faut juste s'en référer à ce qu'on peut voir sur le plan médiatique, sur le plan de la publicité, sur la manière dont la femme est objectisée et tout ce qui s'ensuit. Et je me dirais aussi que, après, je rentre un sujet dans un autre sujet, mais je parlerai même de ce phénomène d'inceste qui touche, d'après les chiffres, beaucoup plus de femmes que d'hommes, plus de jeunes, d'enfants, de filles que de garçons. Et c'est un sujet qui est moins tabou aujourd'hui, mais qui est toujours tabou en vérité. Et juste un exemple de consentement, je sais que je parlais avec une amie il y a quelques temps qui me disait, moi j'étais avec ma fille, Kumba, qui avait je crois 6 ans ou 5 ans, et elle ne voulait pas faire de bisous à telle personne. Et mon amie, elle m'a dit, mais la force pas. Parce qu'on aime trop forcer les petites filles à faire des bisous.
Ouais, trop.
Du coup, moi, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, même là, récemment, là, j'ai laissé ma fille chez... pendant les vacances, nos enfants, ils aiment bien aller voir leurs cousins. C'est la fête à la maison. Du coup, je la laisse avec ses cousins, sa cousine et son cousin, ils aiment bien être à trois. Du coup, à un moment donné, je lui ai dit au revoir. Et ma fille, elle me dit, papa, j'ai pas envie de te faire du bisou. Et j'ai dit, au revoir. Parce que j'ai retenu, en fait, cette leçon que cet ami m'a transmise. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème avec les filles, les femmes. Il faut qu'on sorte de ça, mais c'est tout un travail de déconstruction.
Oui, clairement. Anne Barberiche, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que cette notion de consentement, elle n'est pas véhiculée comme il se doit, parce que les hommes veulent garder une emprise sur les femmes. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément répondu, alors que ça devrait être, alors que c'est essentiel en fait dans l'éducation de tout être humain.
Mmh. Tu parlais tout à l'heure.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose de malveillant.
De malveillant, oui, clairement. Tout à l'heure, Boba, tu parlais justement du nombre d'hommes, de femmes. Aujourd'hui, on sait que dans les auteurs d'agressions sexuelles sur enfants, d'inceste, c'est 96% d'hommes qui sont agresseurs, mais ce qui laisse quand même 4% de femmes, même si elles ne sont pas nombreuses, mais 4% de femmes qui passent en dessous des radars et qui, elles aussi, commettent. Et d'ailleurs, les chiffres doivent être erronés parce qu'en fait, combien de femmes sont dénoncées et combien... est-ce que la société est prête à entendre aussi que des mères portent atteinte sexuellement à leur enfant? J'aimerais entendre Nina. Manon, pardon, sur justement cette question de la sensibilisation auprès des garçons, parce que du coup, avec le GAMS, vous faites des sensis. Est-ce que les garçons sont touchés? Est-ce qu'ils se sentent concernés? Qu'est-ce que tu constates, toi, sur le terrain?
Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une évolution des mentalités, notamment de la jeune génération, à ce sujet-là. Maintenant, c'est vrai qu'à mon sens, vu que tous les cours d'éducation à la sexualité, à la vie affective ne sont pas donnés. C'est toujours, dans une certaine mesure, pas encore abouti. Mais moi, je trouve qu'il y a une évolution et que les jeunes se sentent concernés et ça se voit au niveau des statistiques. Donc, c'est plutôt encourageant et moi, j'ai vraiment foi en la nouvelle génération et la prochaine génération.
Merci pour ce retour.
Ça veut dire que la nôtre, elle est foutue, quoi.
Non, c'est pour ça qu'on est là.
Moi, j'ai une question concernant les chiffres par rapport aux garçons. Est-ce que les chiffres, ils ne sont pas erronés parce qu'il y a un réel tabou pour un jeune garçon de dénoncer?
Oui, clairement.
Je parle de ça parce que moi, j'ai mon dernier qui évolue dans le monde du sport, notamment le sport pro, le foot, pour ne pas le citer. Il y a énormément de cas.
Bien sûr.
Mais déjà, c'est très, très difficile pour une femme ou une petite fille de passer à la parole et de se livrer. Néanmoins, elles sont encouragées. c'est souvent par rapport aux petites filles qu'on tient le discours, s'il se passe quelque chose, personne n'a le droit de te toucher, etc. etc. Mais par rapport aux garçons, quand tu énonces tes chiffres-là, est-ce qu'on n'est pas finalement à côté de la plaque et il n'y en aurait pas beaucoup plus qu'on ne le penserait?
Mais bien
qu'est-ce
sûr.
Qu'on fait par rapport à ces petits garçons? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Bien sûr que les chiffres sont erronés. C'est un peu comme quand on parle de violences faites aux femmes, etc. Ça veut dire que les chiffres ils prennent en compte que ceux pour qui on le sait. Soit parce qu'ils ont parlé, soit parce qu'il y a eu un signalement. Au niveau des agresseurs, déjà, sur la proportion homme-femme, forcément, c'est erroné, parce que combien de femmes sont dénoncées? Et pour les enfants, c'est pareil. Ça veut dire, déjà, le garçon, s'il a l'espace pour le dire et qu'il a le courage ou qu'il se sent assez fort et en sécurité pour dénoncer, chapeau. Mais après, il y a tous ceux, un, qui n'oseront pas le dire parce que la culpabilité, la honte. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme on est aussi en train de se questionner sur les parents, chez les parents, est-ce que la proportion de parents qui est prêt à assumer que son fils était abusé, elle n'est pas aussi à prendre en compte? Ça veut dire que, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui plus de facilité à dire que sa fille a été victime? Déjà, c'est un tabou, mais d'assumer que son fils a été victime, ça veut dire où est-ce qu'on en est nous-mêmes vis-à-vis de ça, nos tabous, notre propre sexualité, notre rapport à la sexualité, aux agressions. Du coup, j'aimerais bien qu'on se pose la question. Nina, vas-y.
Oui, même quand... quand on parle au cours de l'éducation, souvent on dit aux petits garçons, oui, pleure pas comme une fillette ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, mine de rien, pour le parent, il a déjà certaines certains préjugés, on va dire. Et l'enfant, il se construit aussi par rapport à ça. Et je pense que c'est quelque chose à changer dans le cas de l'éducation. Quoi.
Martina, est-ce que toi, tu voudrais intervenir sur cette question de comment la société accueille cette différence entre le traitement des filles et des garçons? Comment on peut sensibiliser les garçons et les mettre en confiance aussi pour qu'ils puissent parler? Et juste après, j'aimerais bien entendre aussi ton point de vue, Diariatou.
Alors moi, j'aimerais parler de quelque chose qui est pour moi très très relié, c'est les besoins. Est-ce qu'on dit qu'il y a un besoin sur le plan, on va dire, émotionnel, sexuel, plus fort chez la fille que chez les garçons, ou chez les garçons que chez la fille? Et c'est de là que part aussi l'idée pourquoi les femmes doivent se soumettre aux besoins de l'homme et donc satisfaire l'homme. Et alors, est-ce qu'on dit qu'un garçon doit satisfaire les besoins d'une femme? Je pense que ça vient de cette idée de base qui est parfois reliée à la culture. Et donc, de là vient bien évidemment l'éducation, et qui dit que le garçon, il n'a pas besoin ni de pleurer, il ne doit pas pleurer, etc., etc. Et du coup, on part déjà sur une base qui est complètement erronée à ce niveau-là.
Diariatou, qu'est-ce que tu en penses?
Ce que je pense, c'est que nous qui luttons contre certaines coutumes, certaines traditions, déjà, c'est utilisé assez tabou. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent sur les petites filles qu'on met tout. Moi, personnellement, j'ai beaucoup sensibilisé ma petite fille quand elle va à l'école, quand on lui tape sous les fesses, parce que parfois, il y a des garçons ou même des personnes qui peuvent rigoler avec une petite fille en lui tapant sous les fesses en pensant que c'est pour rigoler. Je pense que c'est tout petite qu'il faut sensibiliser sur ces sujets-là, que le corps, elle est sacré, et que le corps, on ne le touche pas comme ça, et qu'on le donne quand on a le choix et quand on veut, et que le plaisir, c'est quelque chose de commun. Et par rapport aux petits garçons aussi, c'est les élever, d'accepter qu'un non, c'est un non, en fait. Il n'y a pas à pousser au non. Et je pense que c'est décidé extrêmement tabou dans nos familles africaines, en tout cas, qu'on n'aborde pas assez sur la sexualité. Et après, en fait, tout commence tout petit. C'est-à-dire qu'après ce tabou-là, c'est que les petites filles, par exemple, on va les donner en mariage sans lui dire c'est quoi la sexualité, c'est quoi la nuit de noces, comment ça se passera avec ton mari. Et tu te confrontes à la vie d'une adulte alors qu'on ne t'a rien préparé. Je pense que c'est décisé. C'est des émissions comme celui-là. Il faut m'altérer que le choix, ça doit être quelque chose qu'on désire, qu'on accepte, sans que ça soit forcé.
Stéphanie et Kadiatou, je voyais que tu allais réagir. Et Stéphanie a le temps de se préparer, parce que c'est la prochaine à passer à casserole.
Oui, moi, je voulais juste relativiser par rapport à la question de la culture, parce qu'en fait, aussi, dans les sociétés occidentales, pendant très longtemps, la place de la femme et de l'enfant était sous la coupe, entre guillemets, du père. Mm. C'est très récent, finalement, que ça a évolué. Et donc, vraiment, voilà, qu'on puisse se dire que c'est partout. Je pense que c'est historique, cette question-là. Et la question de la sexualité, de est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Je pense que dans beaucoup de familles, y compris des familles qui ne sont pas forcément issues de l'immigration, il y a aussi des tabous sur cette question-là. Et puis sur la question de l'éducation genrée, effectivement, je pense que ça part de là. C'est-à-dire que quand on éduque nos enfants, enfin de manière à ce que le garçon, voilà, il faut qu'effectivement, il ne montre pas trop ses émotions, limite, voilà, c'est un signe de faiblesse de les montrer, qu'on chouchoute, entre guillemets, la fille en la protégeant au maximum, vraiment, même dans des choses très limitatives. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut amener à changer.
Entièrement d'accord, et c'est vrai que dans cette émission on a par moment abordé le fait que même en France la fille était la propriété de son père et ensuite elle passait à la propriété de son mari, elle avait pas son mot à dire et on les mariait pour agrandir les terres, pour des questions d'argent, donc et le droit de vote, enfin il y a tellement de choses, donc oui, je pense que c'est international. Stéphanie, puis Manon, justement, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ?
En fait, moi, je trouve que tout ce qui a été dit jusqu'alors, c'est très intéressant. Et en fait, ça me fait m'interroger sur quelque chose que tout à l'heure, Bouba a dit. Il a cité en exemple sa fille et le fait qu'on oblige les enfants à embrasser les adultes. Et en fait, moi, j'étais confrontée à ça quand ma fille était petite. Elle voulait jamais embrasser les hommes. Et au début, donc, t'es un peu gênée, tu te dis, oh là là, on va croire qu'elle est mal polie et tout. Et au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vois pas pourquoi, si elle veut pas, elle veut pas. Mais en fait, la question que je me pose, c'est si j'avais eu un garçon, et s'il avait fait ça avec une femme, est-ce que je l'aurais vécu de la même façon, en fait ? Est-ce que je me serais dit, peut-être qu'il est mal à l'aise, peut-être que non, en fait. On a plus tendance, en fait, à protéger la fille et à se dire, de voir un côté malsain peut-être qui peut la mettre mal à l'aise, etc. Mais si j'avais eu un petit garçon, est-ce que je me serais posé les mêmes questions ? Ouais. Je ne sais pas.
C'est une vraie question. J'allais poser une question à Manon, mais du coup, ça me donne envie de rebondir sur Ori. Ori, t'es maman et tu as des garçons, du coup, pour le coup. Est-ce que la question que Stéphanie vient de poser... J'ai vu que tu bougeais la tête. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, tout de suite, quand tu entends ça ?
Non, moi, je suis complètement d'accord avec elle, parce que, du coup, au vu de l'histoire de ma famille, où mon fils part à 13 ans, c'est le dernier, ma fille a 23 ans, j'ai beaucoup plus été en flip pour mon petit garçon que pour ma fille. C'est-à-dire que, dès lors où il a quitté le nid, j'ai commencé à avoir ce discours avec mon fils. Attention, Tilel, les vestiaires. Attention, si un adulte rentre, si un éducateur te dit « Oui, fais cela parce que comme ça, tu vas jouer, etc. etc. » Je l'ai eu tout de suite avec mon fils. Or, je ne l'ai pas eu avec ma fille. Maintenant, je pense que je l'ai eu parce qu'il est parti jeune de la maison, à 13 ans. Mais sans ça, je ne pense pas que je me serais posé la question. Et pire que ça, il n'y a pas de tabou à la maison. J'étais même gênée les premières fois où j'ai commencé à parler de tout ça avec mon fils. Mais pourtant, pour moi, ce n'était pas possible que de le laisser quitter le nid sans parler de ça. Parce qu'on a ces vieux dossiers qui traînent où on sait que l'entraîneur de tennis, l'entraîneur de natation, etc., etc. Et puis, ça commence à sortir alors à goutte d'eau, mais on sait qu'aussi dans le foot, ça s'est passé énormément même. Du coup, mais je pense que, ouais, t'as raison. On ne réagit pas en tant que parent de la même façon que ce soit une fille ou un garçon. Moi, là, c'est le contexte qui a fait que j'ai réagi comme ça avec mon fils. Je ne l'ai pas fait avec le grand, par exemple. Mais c'est le contexte. Et sinon, je ne pense pas que j'aurais réagi de la même façon.
Ça tombe bien. Bouba, je vois que tu voulais réagir.
J'ai deux exemples. Tout à l'heure, tu rebondis, ça fait écho à un joueur de foot, Patrice Evra, qui a révélé il y a peu qu'il a subi à l'adolescence une agression. Il y a aussi un chanteur que beaucoup connaissent, Robert Kelly, qui... En fait, lui, quand il était plus jeune, il a subi des agressions d'une femme. Du coup, il a reproduit ça. Après, il a reproduit ça à une autre échelle. Et tout ce qu'on connaît, aujourd'hui, il est en prison pour très longtemps.
Du coup, La question que j'avais envie de vous poser, c'est, étant jeune, déjà de se projeter sur nous-mêmes et après de faire une projection sur les enfants qu'on peut être amené à éduquer ou à accompagner professionnellement. Étant jeune, est-ce que vous vous souvenez la première fois qu'on vous a parlé de consentement, si première fois il y a eu, Manon ?
Alors justement, j'étais en train de réfléchir à ça. Moi, je ne me rappelle même pas quand est-ce qu'on m'a parlé de consentement. C'est... une notion qui m'est familière depuis pas si longtemps, finalement. Et c'est vrai que j'ai pas du tout ce souvenir-là. C'est vraiment une construction au fur et à mesure et qui est évolutive aussi, parce que c'est vrai que même encore maintenant, quand j'ai l'impression que bah voilà, je sais donner mon accord, il y a encore des constructions en moi et j'ai pas tout déconstruit. Et parfois, j'ai l'impression de donner mon consentement. Ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que je pense à ça. Et en fait, je me suis dit, je crois que je ne l'étais pas. Mmh. Et on n'arrive pas, et je voulais rebondir sur ça tout à l'heure, je pense qu'on n'arrive pas non plus, et c'est le problème aussi avec le consentement, à toujours dire bah non. Enfin, parfois, on a envie de dire non, mais juste, on n'arrive pas, on n'a pas l'occasion, on ne trouve pas les mots, on est face à quelqu'un qui va nous impressionner. Enfin voilà, il y a beaucoup de difficultés à parfois exprimer son consentement quand on est consciente qu'on n'est pas consentant.
C'est merci pour ça, parce que du coup il n'y a pas longtemps je parlais à, je sais même plus avec qui tellement je parle, et c'était posé la question de justement, mais comment on sait dire, comment on est assez en confiance et assez à l'aise pour dire des fois non, alors que l'autre aurait toutes les raisons de penser qu'on a envie. Mais est-ce que je suis assez à l'aise, est-ce que je suis assez en confiance pour pouvoir dire à l'autre non? Et des fois, bah, ton anecdote, elle est trop vraie. Des fois, tu vas faire un truc et tu vas te dire, bon allez, ça lui fait plaisir, ou ouais, vas-y. En fait, c'est pas que tu veux ou que tu veux pas, mais c'est juste que ça te dérange pas spécialement. Et après coup, tu peux te dire, ah ouais, mais en fait, non, j'avais pas envie.
Et du coup, c'est horrible parce qu'en fait, après, tu te culpabilises en te disant... Enfin, c'est très, très violent envers toi-même et tu te dis, bah voilà, j'ai même la paire. En fait, c'est même pas forcément de la faute de la personne, parce que tu peux avoir donné des feux verts, entre guillemets. Toi, t'as pas réussi à le verbaliser. Et du coup, bah en fait, tu te dis, bon, bah je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et du coup, c'est encore plus un deuxième traumatisme derrière.
Ouais, mais est-ce que ça rend pas schizophrène un peu?
Bah justement, en plus, j'allais vous poser la question à vous, les garçons.
Parce que c'est... En fait, c'est... C'est particulier, en fait, cette question, elle est particulière parce que je trouve que c'est important d'en parler, mais ça met certaines personnes aussi dans de la schizophrénie, dans de l'embarras. C'est-à-dire que des fois, on se pose trop de questions. C'est-à-dire qu'on est dans certaines situations où, bah là, on va parler d'adultes, par exemple, lors de relations, on est dans des situations qui font qu'on se laisse aller et on va avoir ce truc de consentement qui va venir et qui va venir nous interroger. Et je trouve que des fois, cette notion-là, maintenant, bloque beaucoup de gens. Bah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
En plus, j'allais vous poser la question à vous deux, Bouba et Barberiche, en me disant, là, vous avez eu le point de vue de Manon, du prisme d'une femme. Est-ce que vous, ça vous arrive, ou vous pensez que chez les hommes aussi, ça arrive, ce truc de... T'es là, les choses, elles se passent, mais en fait, tu te rends compte que t'es pas consentant, en fait. Mmh. Tu t'es laissé embarquer, et peut-être pour des questions d'ego, de virilité ou autre, bah, tu vas au bout des choses, alors qu'en fait, ouais, comme t'as dit, tu t'es laissé, voilà, tu t'es pas trop posé de questions, tu l'as fait, et après coup, tu dis, ah ouais, en fait... Non.
Tu veux que je révèle ma vie privée à...
Bouba, non, mais Bouba et toi, mais... Pas, peut-être pas à l'instant T, non, mais en fait, dans votre vie de garçon, dans vos relations, Bouba aussi dans tes précédents mariages, peut-être, tu vois. Mais est-ce que des fois, ça vous arrive de suivre le mood alors qu'en fait, tu te rends compte que tu n'as pas envie? Ou déjà, dès le départ, tu savais que tu n'avais pas envie?
Vas-y, Bouba.
J'allais lui dire, vas-y. Oh là 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 là.
Une super question.
C'est une bonne question parce que c'est la gênance. Allez, vas-y.
Et profonde. Oh là 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 là. Moi, je crois que les hommes et les femmes, c'est pas ce que je crois, mais nous sommes différents. Enfin, en tout cas, sur le plan émotionnel, sur le plan concernant les envies, Voilà, j'ai pas envie de faire de généralité, de on va me dire oui,
essentialise.
Vas-y. Non mais ma question en fait elle est simple messieurs. Depuis tout à l'heure on le dit, nous les femmes on va parler, on est à l'aise sur le sujet
parce que Bouba il va faire le politicien. Moi j'ai pas l'habitude de le faire. Il y a les injonctions
de la société.
Donc c'est à dire que des fois, en tout cas quand j'étais jeune, parce que maintenant je suis marié depuis 20 ans.
Ça intéresse il y a bien longtemps.
Et donc blague à part. En fait, le truc, c'est qu'un homme, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a des attentes d'un homme. Un homme, c'est fort. Un homme, ça n'a pas forcément d'émotion. Un homme, ça dit toujours oui. Un homme, c'est chaud lapin. Donc, du coup, on peut tomber face à des femmes qui sont oppressantes. Et à cause de ces injonctions, on est obligé d'être des proies. Alors qu'on nous voit comme des chasseurs, habituellement.
Oh, Bouba, tu vas pas.
J'ai cru que mon avocat a voulu pour
tu
moi.
Tu vas pas te défiler. et après, mesdames, comme vous voulez, vous prenez la parole pour répondre à ces chers.
Moi, j'ai l'impression. Encore une fois, j'ai l'impression. Hein, t'as vu, que, comment l'exprimer de manière technique?
Non, dis-le simplement. Dis-le comme ça vient. Est-ce que.
Quand un homme n'a pas forcément envie. Il peut, comment dire ?
Il renvoie ? Il ressent ?
Il contourne ?
On peut lui donner, comment dire, plus envie facilement qu'à une femme. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis.
Oui.
Voilà,
c'est
vous
clair.
Vous comprenez ce que je dis ?
Oui, c'est très clair.
Voilà, moi, j'ai l'impression, parce que je crois que, après moi, c'est l'analyse que je fais, hein, au bout de mes 44 ans de vie, là, que beaucoup d'hommes sont portés sur le sexe quand même. Sont portés sur le. Enfin, certains en tout cas. Après, j'en connais qui ne sont pas portés dessus. Hein, tu vois.
Mais est-ce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose de mécanique? Attends, Anne. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique que tu décris? Ouais. C'est-à-dire que une femme a les moyens de mettre l'homme en condition plus facilement.
Ouais.
Ça c'est clair.
Ouais.
Mais émotionnellement parlant, quand tu veux pas.
Un homme il a pas le droit de dire je veux pas. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il a pas le droit parce que après je vous donne un exemple là. En plus nous on est en minorité. Maintenant si vous êtes dans un RDV avec un garçon, d'accord, avec un garçon et que à un moment donné vous avez envie de lui, il a pas envie de lui. C'est la risée. Ça va être la risée auprès de vous et de vos copines. Parce qu'en fait, l'homme, il n'a pas le droit de ne pas être à la hauteur selon vos critères à vous. Parce que dans l'inconscient des filles, un homme, il a toujours envie.
Et aussi une injonction à la performance. Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai déjà des gars, j'essaie d'être le moins précis possible, sinon on va... Ah bon, non, c'est prescrit, il y a 25 ans. J'ai déjà des gars qui, à un moment donné, un de mes gars qui s'était intéressé à une fille, qui a pas mal d'expérience. Nous, on savait que lui, il avait des difficultés sur le plan sexuel à bien accomplir l'acte, tu vois, en termes de performance. Tu vois. Du coup, on lui a dit, fais attention à l'expérience. Du coup, lorsqu'il est revenu nous voir, on était au lycée, il nous a dit, ah, les gars, ça a duré. Du coup, il a été la risée de tout un lycée et de tous les autres lycées aux alentours. Et du coup, même, je me souvenais de la chanson de Missy Elliott, là, One Minute... Oui. Une chanson, là, elle disait... Missy Elliott, là. Voilà, on l'appelait comme ça, la One Minute Man ou quelque chose comme ça. Pendant, ça a duré jusqu'à ce que...
Méchant.
Ah non, c'était méchant, hein, tu vois. Donc du coup, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a une injonction à ce que des hommes aient, comme tu dis, dans la conscience collective, toujours envie. Tu vois, moi, j'avais déjà rêvé de dire, hey, non, j'ai pas envie. Mais après, il faut...
Faut assumer les conséquences.
Ouais, faut assumer les conséquences et tu peux, comment dire, refléter l'image de... Comment ça, en fait t'es un homme, tu dois être comme ça. Mm. Tu vois,
Stéphanie, Ori. Steph, vas-y. Et après, Ori. Rebondis, réponds.
Ori, elle avait la tête comme ça. Dit, mais
ouais, mais ouais.
Depuis tout à l'heure, elle te regarde.
C'est le problème quand t'es expressive. Non, moi, je me pose une question. Tout à l'heure, on a parlé d'émotionnel. Anne, tu viens de dire, un homme, il n'a pas le droit.
Ouais.
Mais pourquoi un homme, il n'aurait pas le droit?
Non, attention. Moi, j'ai dit dans l'inconscient.
Ouais.
Après moi j'ai tous les droits parce que je suis un peu buté moi donc du coup j'ai pas de problème avec ça.
Ça veut dire que
c'est vrai
si on n'a pas le droit, ça veut dire que ça devient une charge mentale énorme.
C'est pour
Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas déconstruire en disant à un homme, donc déjà un petit garçon qui va devenir homme demain, tu as le droit.
Bien sûr, c'est important.
Et où le mal ?
C'est important.
Tu vois ce que je veux dire ?
Important.
Il faut pas se lancer dans quelque chose où on va vous fantasmer, entre guillemets. Nous, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Tu vois ? Pourquoi on se le permet et pourquoi vous ne pourriez pas vous le permettre ? C'est dans vos têtes à vous, hein. C'est pas dans la nôtre. Hein.
Ah, Bouba, il n'est pas tout à fait d'accord avec ses dans vos têtes.
Mais je le rejoins dans la...
Vas-y, attends. Bouba et ensuite Nina.
C'est sociétal. C'est comme l'a dit, il y a une injonction qui dit comme quoi t'as pas envie, mais faut que t'aies envie.
Mais est-ce qu'on est des moutons ?
Je suis d'accord.
Voilà.
Je vois qu'Adia tout, Nina,
qui va aussi réagir. Mais maintenant, nous, on se permet de parler comme ça parce qu'on a, parce qu'on a du recul, on a une quarantaine d'années, on a 20 ans de vie commune. Donc maintenant, on n'a aucun problème avec ça. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est très compliqué.
Bah c'est-à-dire que c'est notre rôle, peut-être.
Un homme qui n'est pas performant, il va la déchèterie pour les filles, je suppose. Et ça devient la risée. En plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux.
Moi, du coup, je voulais réagir sur deux choses.
Comme t'es jeune, vas-y.
C'est vrai que dans les inconscients, vous avez la pression au niveau sexuel, etc. Mais je trouve que ça va dans les deux sens aussi. La femme, elle se met aussi la pression pour satisfaire l'homme, parce que ça peut être la risée dans le sens inverse également. Et tout à l'heure, quand on parlait de consentement, on disait que tu disais que t'avais consenti, mais qu'au fin de compte... en vrai, c'est aussi par rapport à comment... En fait, ça fait tout un... C'est un peu ambivalent, en fait, dans notre tête, parce qu'on se construit avec ce fait où il faut faire appliquer notre volonté ou pas. Et en même temps, on est construite avec notre personnalité, avec une forme d'éducation et de valeur aussi, où on ne sait pas, on dit « ouais, on va accepter parce que pour l'autre personne, ça ne se fait pas », mais en fin de compte, on n'est pas vraiment OK avec ça, en fait.
Ouais, et puis ça peut aussi changer. Enfin, tu vois, tu peux aller en date, par exemple, avec un garçon, avec une fille, peu importe. Et tu te dis, ok, ouais, enfin dans ta tête, pourquoi pas, quoi. Et en fait, arrivé le moment venu, tu te dis, pas tant que ça. Exactement. Mais comme tu as un peu engagé le truc, et, par exemple, vous êtes déjà arrivé chez toi, bah, tu as un peu ce truc en disant, j'arrive pas, je vais pas réussir à faire un retour en arrière. Alors que le consentement, il se donne, mais il se retire. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux GAMS. C'est pas parce que, on s'est embrassé, que forcément je veux aller plus loin là maintenant, que même à un moment j'aurais envie que ça aille plus loin, que j'ai envie qu'on se réembrasse. Donc ça c'est important. Et par rapport à ce que vous disiez messieurs tout à l'heure, pour rebondir ce que j'avais dit sur la jeune génération entre guillemets dont je fais partie, hein, je suis pas en train de faire la maman. y a aussi, j'ai l'impression, en lien avec toute cette démocratisation autour du consentement, enfin le fait qu'on ça soit plus une notion qui est visible maintenant dans l'espace public, j'ai l'impression que, enfin, il y a eu des statistiques qui sont sorties récemment sur le fait que les jeunes ont moins de relations sexuelles, et je pense que ça c'est en lien avec ça justement, parce que maintenant on arrive plus, même si c'est pas du tout ça partout pour tout le monde, et c'est ok, voilà, dans le sens où on n'arrive pas toujours à le dire et voilà, mais il y a plus de gens qui arrivent malgré tout à dire « là, j'ai pas envie ». Et donc j'ai l'impression, homme comme femme, que maintenant, ça devient de plus en plus OK de dire « bah écoute, là, ça fait même une semaine, deux semaines, j'ai juste pas envie ». Et en fait, pour moi, les relations sexuelles, c'est un moyen d'intimité, mais c'est pas une fin en soi. Et il y a d'autres canaux d'intimité. Par exemple les câlins, les mains dans les mains, enfin je prends des exemples très très lambda, mais voilà, d'autres formes d'intimité qu'il faut mettre aussi en avant à mon sens, et j'ai l'impression que la nouvelle génération c'est aussi ce qu'elle fait, de pas sacraliser les relations sexuelles et dire qu'il y a d'autres formes d'intimité.
Je rejoins ton propos avec juste un exemple. Vous étiez là, Aminata et Anne, on parlait de relations fille, garçon. Et on parlait de, je crois que c'est toi qui avais posé la question à une fille. Si jamais tu vas au cinéma avec un garçon, est-ce qu'il est obligé de... Enfin, en tout cas, la réponse de la fille, c'était, puisqu'il m'a payé le cinéma, obligé qu'on s'embrasse. Et je me souviens qu'on était choqués. J'ai dit quoi ?
Que ça aille plus loin même.
Même que ça aille même plus loin. J'ai dit quoi ? Parce qu'il a payé le cinéma. La fille même, elle était conditionnée à se dire, mais il faut que ça... Voilà, bisous, tac, il faut que ça aille plus loin. Ça m'avait choqué.
Ça nous avait vraiment interpellés. Martina, je vois que tu veux prendre la parole, vas-y.
Oui, là on a parlé de consentement et je voudrais quand même introduire le fait de pouvoir dire non. Parce que le consentement, c'est positif. Et là, de pouvoir apprendre aux petits garçons et petites filles qu'est-ce que c'est de pouvoir dire non et de quoi j'ai peur et pourquoi je ne peux pas dire non. Souvent, c'est la peur de perdre des amis, de perdre le regard de l'autre, le regard positif de l'autre sur moi. Et du coup, de pouvoir les rendre capables d'être conscients de leur peur. Et de pouvoir affronter leur propre peur et de dire, c'est pas grave, si je perds cette copine ou ce copain parce que j'ai dit non, tant pis. Et d'arriver à ce tant pis et de pouvoir se connaître davantage, connaître ses propres besoins et au moment T, pouvoir dire non.
Bah, merci, parce que alors j'avais une question en tête, mais tu en induis une autre. Et sur cette question de pouvoir dire non... Parce que l'idée, c'est aussi peut-être de s'échanger des tips. Tout à l'heure, Bouba donnait l'exemple de son ami qui lui dit « Mais pourquoi tu obliges ta fille à faire des bisous ?» Moi, je sais qu'à mes filles, je leur dis souvent, le consentement, il commence par bah, quand quelqu'un te prend par le bras. Elles sont jeunes, moi, mes filles, elles ont 11, 13 et 16 ans. Quand tu as une copine qui te prend par le bras, on n'est même pas dans la relation fille-garçon, mais juste, t'aimes pas ça, ça te dérange, t'es pas tactile. Et que tu lui dis « Non, mais s'il te plaît, me prends pas par le bras. » Parce que c'est un geste d'amitié, mais combien de jeunes se prennent bras dessus, là, comme ça. Et il y en a une qui n'est pas en accord avec ça, qui n'aime pas, mais qui le fait parce que c'est comme si je te disais que je te repoussais. Déjà, là, ça commence. Quand quelqu'un te touche les cheveux, que tu n'as pas envie, juste le fait de commencer à dire, tu vois, là, je n'aime pas, en fait. Je ne veux pas que tu me prennes par le bras parce que la sensation que ça me fait, elle est désagréable. Donc, toi, tu as l'impression que je suis ta copine et on marche, bras dessus, bras dessus. Sauf que moi, pendant 500 mètres, je suis en PLS, je ne suis pas bien. Et du coup, ça commence là. Et est-ce que vous avez des exemples comme ça de choses qu'on peut dire à nos enfants ou à nos ados? Je pense aussi à vous, parents, qui avez des enfants qui sont grands. Comment on introduit justement ce consentement et cette capacité et cette importance de pouvoir dire non? Parce que consentir, comme tu l'as dit, c'est dire oui, mais tout le monde sait dire oui un peu. Le plus difficile, est-ce que c'est pas de dire non? Et du coup, je fais un parallèle avec la question qui suivait. C'était pour beaucoup de filles, dire non pendant les préliminaires ou l'acte est impossible. Pourquoi? Fille, homme, femme, une fois que les préliminaires sont lancés, eh ben, c'est comme si c'était impossible de faire marche arrière. Est-ce qu'on peut se poser sur ça et justement sur comment on aborde ça avec nos enfants, les petits, les grands, et comment du coup on apprend à dire non? Stéphanie,
la question des préliminaires, on sera après. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu demandais comment nous, ancienne génération, on nous a appris, on nous a parlé de consentement. Et à l'époque, bah, en fait, on fait partie d'une génération où on ne parlait pas vraiment de sexe, enfin, pas du consentement au niveau du sexe, mais en tout cas, pour ma part, c'était plus au niveau de la drogue. De la cigarette, voilà. Donc, à ce niveau-là, on nous a appris à dire non. C'est un point de départ, déjà. Tu vas pas, te drogues pas pour faire comme tout le monde, ne fume pas pour faire comme tout le monde. Enfin, voilà. Et je crois que c'est important de le transmettre à nos enfants. Déjà, c'est un début. C'est un début de consentement ou pas. Enfin, voilà. Après, ouais, vient la question de la sexualité. Peut-être, enfin, nous, on l'a pas forcément abordé. Nos parents ne l'ont pas abordé sous cet angle-là, mais en tout cas, on nous a appris consentement ou pas consentement sous d'autres biais. La deuxième question sur les préliminaires, je trouve que c'est super compliqué en fait. C'est super compliqué parce que ce qu'on dira en premier, c'est pourquoi elle y est allée en fait. Pourquoi elle s'est retrouvée là si après elle dit non. J'ai pas, bien sûr, en tant que femme, je vais dire, on a le droit de dire, c'est bon, je veux plus.
Mais ouais, beaucoup se disent qu'une fois que ça s'est lancé, une fois que tu as dépassé cette étape, dire non à celui que tu as mis en que tu as préparé, en fait, tu l'as mis en ébullition, et de dire non, ça semble impossible. Et j'ai envie même d'aller plus loin, ça peut même donner des conséquences qui sont encore plus violentes. Parce que du coup, tu as fait les préliminaires, il est prêt. Là, tu lui dis non. Est-ce que quelque part, l'autre ne peut pas du coup devenir un peu agressif?
Bien sûr, oui.
Agressif, et du coup, là, on passe carrément à l'étape du viol, parce que toi, tu as verbalisé ton non, mais tu l'as laissé...
Mais parce que l'homme, il a l'impression que vous avez fait exprès. C'est ce sentiment-là, en réalité. Parce que dans tout le processus, c'est-à-dire que je reste dans le cas que vous avez mis en avant, tout se passe comme ça doit se passer. Donc, tu parlais de préparation, ouais. Donc il y a la préparation. Et au moment de l'acte, il y a un non qui arrive. Et bah, le garçon, il n'est pas préparé. Et il y a aussi ce truc de... Le garçon n'a pas été préparé à ce qu'on lui dise non. On ne peut pas dire non à un garçon. Dans la tête de certains garçons, on ne peut pas dire non, en fait. Comment tu dis non? Tu es venu jusqu'ici, donc tu ne peux pas me dire non.
Mais en fait, moi, ce que je rebondis vite fait sur ce que dit Anne. Il faut vraiment des campagnes internationales sur le consentement. Voilà, parce qu'en vérité vraie, il faut... Ça, là, ce dont on parle, il faut que ce soit... pas les JT de 20h, quand on parle à 20h, pour expliquer que si elle ne veut pas, même si... Parce que dans la tête d'un homme, comme je l'ai dit précédemment, c'est... Enfin, on vit dans un monde d'hommes où, à un moment donné, une femme, si elle a commencé à vouloir, comment dire, avoir un acte sexuel avec le garçon, il faut qu'elle aille jusqu'au bout.
Parce que, je rebondis sur ce que Bouba disait, c'est que, vu que dans la société, on dit que l'homme, c'est un chasseur, c'est un chaud lapin, dans la tête de l'homme, si la fille, elle est venue jusqu'ici, c'est qu'elle veut. Parce que vous savez que c'est ce qu'on veut. Donc, dans la construction, je parle, hein, dans la construction de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il se dit... Non, mais clairement, l'homme, il se dit... Vu que vous savez...
On
n'avait
pas beaucoup entendu Kadiatou, mais là, c'est chaud.
Non, mais de toute façon, je suis là pour ça, pour bousculer, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, vu que l'homme, il a cette image-là, l'homme, il part du principe que si la femme, elle vient jusqu'ici, c'est qu'elle veut. Et donc, elle ne peut plus refuser.
Et le pire, hein, c'est qu'auprès d'autres hommes, il aura raison. T'sais, les hommes, ils diront... Attends, comment
mais auprès de certaines femmes aussi. Hein.
Oui. Ouais, mais oui, des femmes qui diront, mais t'es allé jusque-là, ben voilà, toi aussi.
Kadiatou, à toi.
Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, on voit bien que du coup, la pression, vous l'avez aussi du côté des hommes, sur la question en tout cas de la sexualité, de la performance, etc. Mais du coup, c'est une pression qui vous met en risque, tout comme elle met les filles aussi en risque. Parce que la fille, finalement, qui... commence quelque chose et qui n'a plus envie pour X raisons, d'autant plus que, alors moi je le dis, mais c'est un petit préjugé que j'ai, qui n'est peut-être pas vrai, mais je pense qu'on est très cérébrales, nous les femmes. Donc c'est possible qu'à un moment donné, elle n'ait plus l'envie, elle se dit, étant donné que j'ai commencé aussi, je vais y aller jusqu'au bout, alors que ce n'est pas forcément le cas. Du coup, ça se termine en un acte qui n'est pas finalement si agréable que ça, en tout cas du côté de la femme. L'homme, il a l'impression d'avoir été jusqu'au bout, du coup, il est content et finalement, voilà, en fait, chacun a l'air content, mais pas vraiment. Voilà, juste pour dire que sur la question de la pression, je trouvais que c'est quelque chose qui est réel. Mais alors moi, ça me fait penser, les campagnes nationales, je pense que c'est intéressant, mais au départ, c'est dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'en tant que parent, on puisse, dès le plus jeune âge, apprendre à son enfant à dire oui, à dire non, à s'exprimer. Et je pense que l'un des vrais soucis qu'on a sur le sujet de l'éducation, c'est celui d'autoriser l'enfant à exprimer son point de vue dès le plus jeune âge. Un point de vue qui peut être contraire, en fait, à celui auquel on pense. Et si on n'est pas, pour moi en tout cas, dès le départ, dans cette ouverture à l'enfant et à sa capacité à être, on va dire, à lui-même et à décider aussi pour lui, bien évidemment dans les limites des règles qu'on va donner à l'enfant, parce que voilà, faut quand même qu'il s'intègre, etc. Mais qu'on l'autorise vraiment à exprimer les choses. Je pense que si, dès le départ, on est là-dedans, finalement, quand cet enfant va grandir, que ce soit l'adolescent, soit l'âge adulte, il aura beaucoup moins de soucis, en fait, à dire oui ou à dire non. Alors que si on est toujours dans cette cette éducation qui est l'adulte sachant, l'enfant non sachant, et on est dans une transmission sans explication. Tout à l'heure, tu parlais de l'interdit. Donc oui, il y a des interdits qu'on pose très vite, hein, la cigarette, la drogue, les mauvaises fréquentations, etc. Mais derrière l'interdit, c'est l'explication. C'est-à-dire que ce qui manque souvent, c'est pourquoi. Pourquoi je te dis que là, si on revient sur le sujet de la sexualité, si une fille, même si elle t'amène avec elle dans sa chambre, etc., et qu'elle te dit non, il faut que tu dises non, il faut poser l'interdit et expliquer pourquoi. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a une loi, déjà, parce qu'il y a un cadre juridique, il y a une réglementation, tu encours des sanctions. Enfin, je pense que c'est vraiment dire les termes comme il faut les dire pour qu'il y ait la prise de conscience.
Je vous dis vite fait, ouais. Très rapidement. Pourquoi moi j'ai parlé de campagne nationale, internationale? C'est parce que cette société est régie par la télé. Tout le monde, plein de gens regardent les réseaux sociaux et autres. Et la manière d'être le plus impactant est que les gens, à un moment donné, même dans les familles, puissent en parler. Parce que si on se dit la vérité, il y a plein de familles. Moi, j'en vois très peu qui. On est là en train de manger tous ensemble ou dans le salon. Ah, on parle de sexe.
Eh oui, je suis d'accord.
C'est un sujet tabou. Chez tous les.
Ah oui, oui.
Toutes teintes confondues, toutes cultures confondues. Venez, on parle de sexe, clairement, consentement. Je ne l'ai jamais
plus,
vu.
Et en plus d'être tabou, excuse-moi, Bouba, mais il y a aussi.
C'est interdit même. Enfin,
c'est, alors, il y en a, c'est tabou, il y en a, c'est interdit. Et au-delà de ça, pour les enfants, c'est très difficile aussi. C'est malaisant de parler de sexualité. Et d'où l'importance d'accepter que collectivement on éduque nos enfants ensemble. Ça veut dire que c'est pas parce que moi j'ai la volonté d'enseigner à mon enfant, de lui expliquer, de parler avec lui, que lui il a la volonté d'en parler avec moi. Et le consentement, c'est aussi d'accepter que moi j'ai envie de t'éduquer, mais d'accepter le fait que toi, mon enfant, t'as pas envie de m'écouter sur ce sujet-là, et du coup de t'ouvrir les portes et t'orienter vers d'autres adultes. Mais ce qui implique aussi de faire confiance aux autres adultes qui pourraient parler sexualité, consentement avec nos enfants. Et il y a un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, parce que moi c'est ce que je vois parce qu'on est en France, les parents, les adultes, quelle que soit la confession, quel que soit le pays d'origine, etc., sont en règle générale fermés à l'idée qu'on parle de sexualité, comme si ça allait inciter les enfants à passer à l'acte.
Totalement.
Et du coup, il y a plein de sujets. Et j'aimerais bien, Manon voulait réagir, mais il y a Diariatou, Ori, Nina aussi, vous n'avez pas beaucoup parlé. Et du coup, je voulais poser cette question à toi d'abord, Diariatou. Tu œuvres pas mal sur tout ce qui est mariage forcé, excision, etc. Et du coup, quand une fille se voit arranger son mariage ou forcée à rentrer dans l'union, il y a cette question du consentement. Déjà, tu n'as même pas consenti à aller vivre avec l'autre avant même de parler de la relation sexuelle. Il y a le viol qui se multiplie, hein, puisque si tu n'as pas consenti à rentrer dans ce couple, en fait, à chaque fois qu'il y a une relation, OK. C'est le viol, ouais. Et comment qu'est-ce que toi, tu constates sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux en dire? Et puis, je pense aussi que tu as ton expérience personnelle qui peut, du coup, prendre sens. Donc, est-ce que tu veux bien témoigner, nous dire ce que tu as envie? Et ensuite, je laisserai Ouri, Nina rebondir. Manon aussi.
Alors moi, pour revenir là-dessus, c'est pour ça tout à l'heure, ma prise de parole, elle était par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à mon éducation et mon environnement, parce qu'on ne réagit pas tous sur ces thématiques-là de la même manière. Moi, je viens d'une famille où ces sujets-là étaient extrêmement tabous. On ne parlait jamais de la sexualité, on ne parlait jamais de mariage, comment ça se passe. Et je sais que pour beaucoup de fillettes, de ce que tu en parles, qui ont été excisées, déjà, c'est très douloureux. Pendant le moment où on subit ça et après quand on grandit avec ça.
Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est l'excision, parce que tout le monde ne le sait pas, et t'as parlé de ton histoire, moi je la connais mais les autres ne la connaissent pas, pour qu'on puisse partir sur la même base.
D'accord. Alors moi par exemple, par rapport à mon histoire, j'étais excisée à l'âge de 8 ans. Donc ça s'est passé un matin où une dame est venue voir ma grand-mère qui m'a élevée, parce que mon père avait 4 femmes, plus de 30 enfants. Donc j'étais élevée dans un village très perdu de la Guinée, et avec cette grand-mère, en fait, elle était très gentille, enfin, j'ai que de bons souvenirs, une bonne éducation. Jusqu'à l'âge de 8 ans, elle repoussait souvent la date de l'excision. Mais en même temps, là-bas, quand tu n'es pas excisé, c'est comme si tu ne te sens pas comme les autres, parce que ça fait partie de nos coutumes, nos traditions. Donc un jour, on m'a amené dans la nature et on m'a excisé sans doute avec un couteau qui était déjà excisé avec d'autres petites filles, parce que cette dame, elle passait de village en village et après on m'a excisé. Ça a été très douloureux, comme je dis souvent. Le cri que j'ai poussé ce jour-là, c'est un cri qui va sans doute résonner toute ma vie dans ma tête, parce que je me rappelle tous les détails, les saignements, le cri, la douleur. Et ma grand-mère me lavait avec l'eau tiède, elle me soignait comme ça. Donc, il faut savoir, l'excision, il y a plus de 30 pays dans le monde qui le pratiquent. Et souvent, on excise, on enlève les clitoris, le type 1. L'autre, le type 2, on enlève les clitoris et les petites lèvres. Le type 3, c'est l'infibulation, c'est-à-dire on enlève les clitoris, les petites lèvres, et on coule la petite fille ou la jeune femme jusqu'à son mariage pour que l'homme puisse enlever. On laisse juste un endroit pour qu'elle puisse uriner. Donc, vous voyez un peu combien c'est difficile. On continue de le faire pour simple raison, en disant c'est la pureté. Il faut que la femme soit fidèle à son mari, pour que aussi elle soit vierge au mariage. Donc selon le pays, selon les coutumes, c'est pas le même argument. Mais on sait que tout ça est fait pour faire plaisir aux hommes, malgré que les hommes aussi sont pris en otage là-dedans. Donc moi, après, j'étais mariée à l'âge de 13 ans et demi. Je connaissais pas l'homme qui m'avait mariée. Je lui ai dit qu'une fois, il était venu voir mes parents en disant qu'il allait marier. Je pensais qu'il rigolait. Et ça s'est vu vraiment concrètement. Donc, j'ai le raison après 8 mois en Hollande avec des papiers qui étaient falsifiés. J'allais avoir mes 14 ans et lui, il avait 45 ans. Donc oui, ça a été viol, comme tu dis, quand on a été marié à un homme qu'on n'a pas choisi, à un homme qu'on ne nous a pas préparé, qu'est-ce qui allait se passer. Donc à chaque fois que l'homme te touche, en plus, on nous dit, ton mari, bah, tu n'as pas à refuser ton mari, en fait. Sauf que dans les violences aussi, dans les viols conjugales, bah, une femme peut être aussi violée avec son mari par des moments quand elle n'a pas envie, c'est pas parce que tu es avec quelqu'un que tout le temps tu dois te donner à cette personne. Et pour moi, ça a été des périodes très difficiles, surtout, voilà, j'étais livrée à moi-même, dans un pays où je ne parlais pas la langue, où je ne connaissais personne, avec un messier. Il aurait pu être gentil, mais malheureusement, il n'a pas été gentil. J'ai perdu 3 grossesses dans des conditions très difficiles. Je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne, je vivais la clandestinité. Et puis le français aussi, je l'ai appris beaucoup plus tard. Donc ça a été un long parcours de l'intégration et des reconstructions par rapport à tout ça. Il m'a fallu jusqu'à l'âge de 20 ans pour savoir déjà que l'excision n'était pas bien, que toutes les femmes du monde n'étaient pas excisées. Il m'a fallu aussi beaucoup plus d'années encore pour savoir qu'on avait le droit d'avoir le choix. On avait le droit de connaître notre corps, de connaître le plaisir, de dire oui à un homme ou de dire non à un homme. Donc tout ça, on déconstruit avec des années. Mais en parlant de tout ça aussi, j'ai dit, chez nous, on a aussi hérité des bonnes choses. Il faut être fier de l'héritage traditionnel et culturel. Tout n'est pas que mauvais, mais c'est en dénonçant ce qui est négatif qu'on peut aussi corriger ce qui n'est pas positif.
Et d'accompagner et outiller, parce que tu l'as dit dans ton témoignage d'ailleurs, merci, parce qu'il a été intense et tellement authentique. Et je pense que, voilà, dans le silence là, dans ce moment, en témoigne. Mais tu l'as dit, tu as dit, on ne sait pas que ce n'est pas bien, mais surtout, c'était fait pour faire honneur à la famille, mais aussi prometteur pour l'enfant, une promesse d'un avenir, puisque l'avenir était vu par le prisme du mariage, etc. Mmh. Et le fait d'être excisé, c'était un peu montrer le signe d'une fille respectée et respectable. Donc, c'est d'abord un geste d'amour, tu dirais?
Je dirais que c'est une geste d'amour, mais aussi une geste de faire comme les autres et de dire que je vais faire comme les autres et que l'honneur, qu'est-ce qu'il dira à les autres? Parce qu'une petite fille qui n'est pas excisée, personne ne va la marier. Mmh. Est-ce que je vais commencer la première? Est-ce que ma fille va être rejetée? Est-ce qu'elle sera sans être mariée? Parce qu'il faut savoir, même si aujourd'hui ça a beaucoup évolué, c'est moins tabou ce sujet-là, il y a une prise de conscience, un début de prise de conscience qui est en train d'être là grâce aux campagnes de sensibilisation. Mais ce qu'on peut dire là-dessus, c'est de dire que chacun pense que s'ils arrêtent, ils trahissent leur sien. Ils trahissent cette héritage qui est aussi forte depuis des générations. Il faut savoir, l'excision, ça date depuis l'époque des pharaons. Ça veut dire que ce n'est pas lié à une religion ou bien c'est quelque chose de traditionnel, de culturel qui est là parce que des fois, on mélange les coutumes, les traditions et la religion. Donc ça, c'est très clairement, c'est important de le dire d'une façon aussi claire. Mais aujourd'hui, ouais, le tabou est en train de se lever. Maintenant, de difficultés pour que ces choses-là en prennent conscience, c'est parce que chacun pense que c'est important, c'est l'honneur, qu'est-ce qu'il dira les autres, aussi la virginité qui est très importante. Nous, quand la femme, elle se marie, la première chose, même si on le dit moins aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret, mais après, la première chose qu'on attend, c'est le drap blanc. Est-ce qu'elle était vierge? Est-ce que c'était amère? Elle l'a bien éduquée? Parce que tout se repose sur les épaules des femmes. Les hommes font de l'autorité, mais dans certaines familles, l'éducation se repose beaucoup sur la femme, donc c'est une immense pression en fait. Qu'est-ce qu'il dira? Pour ça, je dis tout ça, il faut le traduire par l'éducation, par l'échange. Quand tu éduques ton enfant, tu le parles lapidaire, tu parles le corps, tu lui parles de l'importance de comment se prendre soin de soi, comment donner dans le plaisir soi, etc., dans le valeur qu'on nous a inculqué, c'est très important que de dire que si j'excise, je contrôle la sexualité. La preuve, il y a des femmes qui ont été excisées, elles font la prostitution. Ça arrive dans certains pays. Donc, ça prouve bien que, par le moment, on a trouvé scientifiquement et aussi au niveau de la santé que c'est douloureux, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Même s'il y a des femmes qui ont des plaisirs malgré elles ont été excisées, mais c'est une minorité parmi celles qui ont été excisées. Donc, on voit qu'il n'y a aucun impact par rapport à la santé pour faire quelque chose comme l'excision. Donc, je pense qu'il est temps qu'on en parle et que ça évolue autrement.
Moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis 100% d'accord pour tout ce qui est éducation. Et c'est pour faire le lien avec la question que tu posais tout à l'heure autour des préliminaires. Et en fait, après, on n'a plus envie et on dit non. Moi, je pense que si j'ai des enfants, peut-être que je n'emploierai pas le terme préliminaire déjà. Parce que je me dis que ça veut dire que forcément, après, il faut qu'il y ait un rapport, qui plus est un rapport par pénétration, alors qu'en fait, enfin, les préliminaires, c'est du sexe au même titre qu'un rapport avec pénétration. Et donc, peut-être que si on dit ça déjà, et ben en fait, il n'y aura pas de question. J'ai dit non après, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un après. On est déjà dans le pendant avec cette manière de relationner. Donc, je pense que c'est important et peut-être aussi décentrer le fait que, une fois que pour que ça soit bien, il faut que ça finisse, entre guillemets, alors que ça peut juste être très bien sans que ça passe par ça. Donc je pense que c'est important aussi le poids des mots et voilà. Je pense que c'est important.
Ouais, merci pour ça et c'est très vrai. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait sur le plateau, je crois que c'est Nina d'ailleurs, faut déconstruire. Faut déconstruire la manière dont on a été éduqué, il faut déconstruire la façon de voir les choses sur certaines choses, pas tout. Mais si on fait pas attention, effectivement, même dans la façon dont on parle, en fait, on enferme déjà des choses. Tout à l'heure, Auré rebondissait parce que Anne a dit on est obligé de, on se sent obligé de. Là, tu parles de justement préliminaire, qui voudrait dire qu'il y a quelque chose derrière, alors que les préliminaires en soi sont font partie intégrante de la relation. Auré, on t'a pas beaucoup entendu justement sur cette notion de consentement là pour rester un petit peu sur le témoignage de Diariatou sur quand on est dans un couple qu'on n'a pas choisi et j'en profite pour dire ça parce que la semaine dernière il y a une jeune fille qui a dit moi je suis issue d'une famille où il est hors de question de choisir un conjoint, un potentiel mari qui soit ni des mêmes traditions ni de la même religion et encore moins s'il ne vient pas du même village. Et donc, je lui dis, en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas un peu une forme de mariage forcé? Parce que du coup, on t'oblige à choisir dans un rayonnement, mais où tu vas le chercher, le mec qui arrive de ton village avec tes traditions, qui est dans la même castre. Et elle me regarde, elle me dit, après, je dis donc, on va être obligé de te présenter des gens. Donc, du coup, ça limite. Et elle me disait, mais de toute façon, là, quand tu le dis, je me rends compte que peut-être, ouais, mais je suis obligée. Parce que je ne pourrais pas aller à l'encontre de ma famille, c'est juste impossible. Donc elle a déjà été éduquée et ça a été martelé très tôt dans son enfance que de toute façon, même si à un moment donné tu te rends compte que ce n'est pas normal ou que ce n'est pas acceptable, tu le feras quand même parce que tu n'as pas le choix. Auré.
Elle n'a pas le choix parce qu'elle est lobotomisée. À ta naissance, t'es promise. Dans certaines cultures, moi je suis peul, je pense que tu es peul. Dans nos cultures, tu peux être promise très tôt à ton cousin Germain. Donc, tu vas commencer où? Tu vas finir où? Et toute ta vie, on te le répète. Donc, à un moment donné, la parole des autres t'en fait tienne. Donc, tu es convaincue que tu n'as pas d'autre choix et tu n'as pas surtout d'autres possibilités. Mais au niveau du consentement, je pense que Nina, tu l'as dit, il faut déconstruire.
quelque chose a été dit ici à juste titre, c'est les émotions et la peur. Le pourquoi on donne notre consentement par moment et à la seconde ou à la minute d'après, on a envie de le retirer, ce consentement. Au risque de paraître bizarre en disant « mais t'es bizarre toi, on est en plein préliminaire et tu changes d'avis ». C'est parce qu'on a peur de paraître bizarre que du coup on ne dit pas le non. On a la peur d'être ridiculisé et d'être moqué qui fait qu'on ne dit pas non. Mais en réalité, est-ce qu'il ne faut pas prendre le parti d'être moqué et regarder de façon bizarre, mais être en pleine conscience et d'imposer son non? C'est facile à dire, hein. C'est très facile à dire.
Après, ça peut être peur des violences aussi.
Complètement.
Et donc là, c'est une échelle où on peut se dire, c'est soit je ne connais pas du tout la réaction de la personne en face et il y a des chances que cette personne soit violente. Et du coup, dans ces moments-là, je pense que...
Mais quoi qu'on dise, il y a violence.
Je suis totalement d'accord.
Violence, c'est juste on choisit laquelle on s'inflige. Alors, il y a la violence des coups qui peut arriver derrière le non. Et je pense que sincèrement, elle peut être elle peut arriver dessus derrière. Mais il y a la violence aussi de ce qu'on s'inflige à l'instant T et le lendemain quand on va repenser à ce qu'on s'est auto-infligé. Donc, il y a violence dans les deux cas. Maintenant, c'est à nous aussi d'éduquer nos garçons.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, une femme, elle peut t'imposer un non. Et dès lors où il y a le non qui est dit, tu dois t'arrêter. Ne te pose pas de questions.
Clairement. Et à nous d'éduquer nos garçons, à accepter que le non, en fait, on peut dire non. Et surtout, apprendre aux garçons que... il n'y a ni honte, ni gêne, ni contre.
C'est-à-dire que... de déconstruire.
Et du coup, moi, ça me fait tout de suite penser à comment on apprend à nos enfants à gérer leurs émotions, la frustration. Parce que finalement, la première chose à laquelle tu vas être confronté, c'est la frustration de l'autre à l'instant précis. Et Anne l'a dit aussi, ce truc de... Il a l'impression que du coup, tu te joues de lui, que tu t'es joué de lui, que tu... Et y a tout cet inconscient, en fait. Parce que du coup, si on replonge sur la jeunesse, c'est quoi? C'est le m'as-tu vu, c'est le clinquant, c'est les amis, c'est tout ça. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, garçon, il ne peut pas se dire, ça se trouve, avec ses copines, elles ont manigancé un truc, elles ont prévu de me foutre la honte pour demain aller dire à tout le monde qu'elles m'ont mis un stop à la dernière minute? Parce qu'on sait que les filles, on discute pas mal. Mais du coup, tout ce qui se passe dans la tête du garçon à ce moment-là? Et du coup, moi je reviens sur les émotions. Les émotions, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être moqué, la frustration de ne pas aller au bout. Et je pense que c'est ces choses-là, en fait, sur lesquelles on n'est pas bon de toute façon.
Mais surtout sur cette époque, en fait. Déjà, il faut changer le prisme de l'éducation. Avant, l'éducation, c'était tiens-toi bien, parle correctement, sois poli avec les gens, travaille bien à l'école, touche pas à la drogue, touche pas à la clope, ne bois pas, etc. Aujourd'hui, il y a la dimension émotionnelle qui prend le pas. Sur l'éducation, une dimension que, enfin, moi, personnellement, ne prenais pas en considération forcément mes parents. Moi, il fallait que ça file droit, mais la dimension, oui, tu vas pas bien, ceci, cela, mais malgré eux, puisqu'ils connaissent pas. Connaissent pas, donc tu reproduis ce que tu connais. Comment on va aller voir si mon enfant va bien? De plus en plus de parents amènent l'enfant chez le psy, chez le sophro, chez... des exercices de guide, d'exercices de bol tibétain pour que l'enfant aille mieux, etc. Enfin, il y a pléthore d'outils qui existent aujourd'hui pour essayer l'enfant à avoir un meilleur mental, un mieux-être chez l'enfant, parce qu'on a conscientisé ça il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, l'émotion de l'enfant, elle est complètement bousculée, voire même fracassée, de par aussi les réseaux sociaux. Parce qu'il y a cet effet miroir où l'enfant, il devient obsédé par ce qu'il voit. À chaque fois, l'enfant se sent moins bien, moins bon que ce que lui renvoie l'image, juste une image ou un reel, ce qui fait 15 secondes. Moi, je dis toujours aux enfants, hey, ça, ce n'est pas la vraie vie. C'est 15 secondes d'un instant donné.
Qu'il a choisi,
t'as pas le avant, tu n'as pas le après, il y a une heure de montage sur CapCut. Bref, ce n'est pas la vie des gens. C'est pas ça la vie. Et donc, merci. C'est ça qu'il faut déconstruire.
Merci, Ouri. Il nous reste à peu près 10 minutes. Et du coup, je pense que c'est maintenant qu'on va mettre les pieds dans la tasse. Barberiche, Bouba, je vous laisse le lead pour bousculer un petit peu les préjugés et aller dans les recoins qui ne sont peu ou pas autorisés. C'est parti, les garçons. Et du coup, c'est Stéphanie qui répondra en premier parce qu'on a peu entendu Nina et Kadiatou. Et ensuite, parole libre.
Moi, je commencerai par une question simple. À qui profite le crime ?
Wow ! Hey, chaque semaine, tu vas nous faire arrêter l'enregistrement. Bientôt, on va finir.
Non, mais voilà ma question. À qui profite le crime ? Parce que c'est vrai que très longtemps, c'était une notion passée sous silence. Donc là, on va dire que depuis MeToo, il y a beaucoup de choses qui sont bousculées et beaucoup de choses qui sont déconstruites. Mais à qui profite le crime ?
À Stéphanie, pas de chance.
Elle est super compliquée, ta question.
Je sais.
Tu ne vas pas aimer ma réponse. Moi, je pense que, sans vouloir être... je pense que c'est aux hommes. Aux hommes. Mm-hmm. Petit H. Hein. Je pense que c'est aux hommes. Et on le voit dans les hautes sphères. Je citerai Depardieu. Enfin, voilà. Donc, moi, ma réponse est celle-ci. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais je vais m'arrêter sur celle-ci.
Ouais, pas mal. Nina, à qui profite le crime ?
Bah, en vrai, je ne sais pas trop quoi répondre.
Là, tu sais pas trop quoi répondre. Kadiatou ?
Alors, c'est une question difficile parce que finalement, moi, je suis pas sûre que ça profite tant que ça aux hommes, en réalité. Parce que pour moi, les hommes, justement, qui sont dans des comportements d'agressivité sexuelle envers les femmes ou envers les mineurs, enfin, voilà, les agresseurs sexuels, je suis pas sûre qu'ils soient nés comme ça. Voilà. Je pense que quand on devient auteur de quelque chose de cette manière-là, où ça devient maladif, parce que pour certains, c'est quand même, ça devient de la maladie, c'est que ça prend ses sources quelque part, certainement, dans son histoire, à cet homme ou à cet agresseur ou à cette agresseuse, hein, s'il s'agit des femmes. Et donc, c'est difficile de dire si ça profite vraiment à quelqu'un. Après, certains en abusent, effectivement, et en profitent bien de ce statut, de cette place, de ce pouvoir qu'ils peuvent exercer sur les autres. Mais est-ce qu'ils en profitent réellement ? Je ne sais pas.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
Tu vois, ta réponse, elle est arrivée. les autres, à qui profite le crime ? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime à peu près 160 000 enfants agressés chaque année d'agressions sexuelles, d'inceste ou autres. Ces enfants qui deviendront des adultes, à qui l'apprentissage du consentement bah, arrive bien après coup. Et tu en as témoigné la dernière fois, tu disais tes parents n'ont même pas eu le temps d'aborder la question du consentement, que tu étais déjà dedans, victime. Et 70% des plaintes sont classées sans suite. Donc moi, la question à qui profite le crime, bah, je dirais bien à l'État, à la justice, à tous ces avocats en fait, qu'on prend, qu'on paye pour des crimes qui ne sont pas travaillés à la source. Donc j'ai envie de bousculer la table en disant que la société, ça profite à la société. Des adultes qui vont mal, c'est des adultes qui ne s'insèrent pas, des adultes qui vont consommer, qui vont être addicts, des adultes qui vont payer pléthore de frais de justice pour des procédures qui donneront le bout à rien, des enfants qui vont être placés, un système en fait, des enfants qui vont être placés, abîmés par le système, qui finiront pour la plupart malheureusement SDF parce qu'après le système te rejette. Et du coup, à qui profite le crime ? Moi je dirais justement à ce déséquilibre de la société qui fait semblant de vouloir que les choses aillent bien, mais on voit bien que les fonds qui sont dédiés au bien-être, à la lutte, à la sensi, ils sont dérisoires à côté de tous les autres fonds. Donc, pour ma part, je dirais à la société.
C'est sûr.
Il y a un livre sur ça, le coup de la virilité de Lucie Pate avant, qui parle de ça justement. Donc, si jamais, ce n'est pas un placement de produit. Je ne suis pas rémunérée, mais ici, si tu m'entends.
Mais le livre va faire de ventes incroyables. les autres, à qui profite le crime ? Diariatou, Ouri. Bouba, Martina.
Bah, moi, en fait, ce que je dis souvent par rapport à mon engagement, c'est de dire que ce qu'on a vécu, c'est ce que nos parents, nos grands-mères ont hérité depuis des générations. Donc finalement, c'est pas... Parce qu'il y en a qui me disent, alors, c'est quoi le lien avec la famille? Moi, j'ai de très bons liens avec ma famille parce que j'ai choisi de rester avec eux, de sensibiliser à l'intérieur de ma famille et de dire que c'est quelque chose qui date depuis des générations. Donc il faut défaire le nœud au fur et à mesure. On ne peut pas en vouloir des gens, mais on peut voir toute une société. Je pense que ce que tu résumes, c'est, ça veut dire vraiment ça. C'est, tout le monde doit être en mouvement et tout le monde peut jouer un rôle pour que les idées et les mentalités évoluent.
Merci. Martina?
J'ai failli être provocatrice. C'est les coachs en grand nombre qui arrivent sur le marché, qui en profitent aussi.
Ouais.
Donc c'est malheureux à dire parce que parfois il y a de l'abus de ce côté-là aussi, de la vulnérabilité et justement de la blessure qui est des deux côtés, hein, hommes et femmes.
Ouais.
Parce que je pense que autant les garçons et les filles, elles en souffrent énormément.
Ouais. Ouais. Merci pour ça. Et du coup, c'est important de sensibiliser les auditeurs victimes de violences et de se tourner vers des professionnels qui ont un métier et une responsabilité sur la vulnérabilité et de ne pas s'engouffrer sur des personnes qui ont du charisme et qui peuvent vendre des coachings sans aucune professionnalisation sur un domaine qui est bien précis. Dès que ça touche l'homme, dès que ça touche la vie, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, il y a des coachs qui sont reconnus professionnels, mais il y a beaucoup de charlatans. Et du coup, merci pour ça, Martina, parce que ça permet de mettre en alerte. Houri, à qui profite le crime? Est-ce que aujourd'hui, d'ailleurs, Houri, je vais te garder pour la question d'après, parce que à qui profite le crime? Avec Houri, on va sortir. On va carrément sortir du studio. Mon Paris FM ne nous prêtera plus du tout l'antenne. Non, je rigole. Oui. Écoute bien la question qui suit. Bouba va poser la dernière question pour les pieds dans la tasse. Et juste après, on entendra Ori.
Vas-y. Avant de te mettre les pieds dans la tasse, Alors, on parlait de différentes thématiques. Du coup, moi, je pense qu'on vit dans une société patriarcale qui fait en sorte que le respect de la famille passe par les femmes, par la virilité de la femme. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que selon les endroits dans lesquels on vit dans le monde, on est profondément conditionné. En Occident, même partout, on est conditionné par la télé, par les films. Et ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce consentement ou ce non-consentement, c'est aussi dû à des films extrêmes, des films pornographiques qui tournent, hein, dans les téléphones de bon nombre de jeunes et de moins jeunes. Donc du coup, on pense que faire l'amour, c'est comme dans un film pornographique, que c'est pas vrai du tout. Et pour rentrer, pour mettre les pieds dans la tasse, c'est assez délicat ce que je vais dire. Tout à l'heure, mon ami a parlé du mouvement MeToo. Je rappelle que le mouvement MeToo est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes dans le but de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé et de permettre aux victimes de s'exprimer sur le sujet. La question est la suivante. Y a-t-il une différence entre le non-consentement et se sentir obligé de, car on vit aussi et beaucoup dans une société régie par des hommes misogynes qui ont établi les règles dans tous les domaines.
Oui, tu n'y échapperas pas. Maintenant, c'est pour toi. Jusqu'à elle rigole.
Non, je rigole parce que c'est pareil, ce spectre de société régie par les hommes. Alors moi aussi, je mets mes deux talons dans la tasse. Vous pensez vraiment avoir le pouvoir?
Et là, Steph a dit, Ouri, je t'aime. Vas-y, dis-le, Steph, tu peux le dire.
La question. Vous pensez vraiment avoir le pouvoir?
Actuellement, oui.
Non.
Bah, regarde. Là, on va parler.
Il reste 3 minutes, ça tombe bien, voilà. Parce que du coup, avec ça, non, avec ça, c'est bien parce que les autres, ceux qui nous écoutent, vont pouvoir continuer à débattre parce que. J'avoue, on fera un parentalité sur est-ce que vous pensez vraiment que les hommes ont le pouvoir.
Regarde, Houri, moi, quand je dis ça, c'est pas de la suprématie des hommes. Tu vois, je suis pas en train de faire de l'apologie des hommes qui...
Enfonce-toi encore.
Attends. Regarde, tu vois, c'est comme un sujet qu'on doit traiter depuis avec certains des gens avec qui on est dans les médias, tu vois. L'hypersexualisation de la femme. Il y en a qui pensent que... Enfin, enfin, en tout cas, certains avis, enfin, certains pensent qu'à un moment donné, le fait d'être hypersexualisé, c'est égal liberté. Mm-hmm. Mais quand on va dans les chiffres et quand on va clairement dans... Je reviens sur la question que Barbarucci a posée tout à l'heure. À qui profite le crime ? C'est-à-dire, tout ce qu'engendre financièrement toute cette hypersexualisation, c'est souvent des sociétés régies par des hommes. C'est-à-dire des hommes qui, à un moment donné, en plus, le pire, c'est que...
Et même, ça fait plaisir à des hommes.
Cette hypersexualisation des femmes... Hey, comment dire... Il y a des hommes qui se disent... Eh, mais ça nous arrange, en fait, tout ça, de voir, de se rincer l'œil, de ci et ça. Et à un moment donné, moi, je parle vraiment de cette objectisation de la femme, mais à des buts financiers, en vérité. Et sous couvert de la liberté de la femme et de... Oh, on est indépendante, regarde, on s'habille comme on veut.
Ouais, mais tu vois, Bouba, la dernière fois, je parlais de ça avec Anne en voiture et je me disais... on parle beaucoup des hommes parce que malheureusement ils sont bien plus nombreux à commettre des soucis, mais nous les femmes, des fois on est très violentes aussi. Ça veut dire que dans le sens où moi je me souviens quand j'étais jeune, je vais le dire, quand j'étais jeune, quand on sortait avec des copines et qu'on avait, ou qu'un beau garçon avait le malheur de croiser notre chemin, il prenait sa part parce qu'on ne se cachait pas. En fait, on à haute voix quoi. Waouh, les filles, midi, regardez ce qui passe par là, bam. Et on y allait de tout commentaire. Et le garçon, qui lui, du coup, n'a rien demandé à personne, marche dans la rue. On ne se posait pas la question de comment, alors qu'une fille qui était sifflée. Et pourtant, nous, déjà à l'époque, on se disait, comment il me siffle, lui. Il a cru que j'étais, mais nous, comment on peut verbaliser, comme s'il était flatté, en fait, comme si forcément, de fait, il allait être flatté. Martina.
Je voulais vraiment parler de la communication non verbale, parce que justement, le consentement, normalement, c'est verbal, mais je pense qu'il y a une très grande part de communication violente non verbale.
Je voulais juste rajouter vite fait mon propos pour finir. Ces temps-ci, je saigne pas mal Arte. Il y a plein de reportages documentaires et du coup, ils te parlent de l'origine du capitalisme. Et du coup, du fait qu'à un moment donné, on vit dans une société... Pour le coup, comme j'ai dit, quand j'en parle, c'est vraiment des faits. C'est-à-dire la famille Rockefeller, Rothschild, les frères Dupont, des milliardaires qui ont établi un système pour qu'ils ne profitent qu'à eux-mêmes. Et principalement des hommes. Dans ce... Bernard Arnault, comment il s'appelle, Bolloré, tous ces gens qui, à un moment donné, ont la main mise sur les médias, la main mise sur l'industrie de la musique, et c'est ça, c'est leur vision d'homme misogyne. C'est vraiment, quand je parle de ça, c'est vraiment pas pour faire l'apologie des hommes, on contrôle le monde, on est content.
Le film Barbie en parle.
Tu dis
le film Barbie en parle.
Voilà, le film Barbie, regarde, je l'ai vu, et tu, peu importe ce qu'on en pense, on vit dans un monde où il y a une mainmise de certains hommes, j'ai pas dit, c'est tous les hommes qui... Mais du coup, ça transmet dans la tête de beaucoup que ce sont les hommes qui...
Mais est-ce que les femmes auraient fait à l'inverse, auraient fait différemment?
Si on était au pouvoir,
ouais.
Mais bien sûr. Déjà on est au pouvoir, mais après je nuance parce qu'en fait, comme on dit, faut pas faire de généralité. C'est pas tous les hommes qui accèdent à un statut de la société qui se comportent comme ça. Ce ne sont pas toutes les femmes qui se comporteraient différemment, mais on a aussi des exemples de femmes puissantes en haut des plus grandes tours qui usent. De leur pouvoir pour sexualiser qui elle veut. Oui. Et on a des hommes qui sont victimes aussi de devoir être le gigolo, et même pas parce que tu n'es souvent pas payé, mais d'une femme de pouvoir. Il y en a plein aussi.
Oui, je te.
Non, mais en fait, j'ai fait exprès, si tu veux, de provoquer aussi, parce qu'on a parlé de déconstruire dans la tête de nos enfants. Tu as une fille, on est plusieurs ici à avoir des filles. Donc moi, je ne tiens pas ce discours à la maison, le monde appartient aux hommes, etc. Pourquoi ? En fait, c'est pour inculquer la confiance en soi à mon enfant. Je ne veux pas que demain, elle se sente comme une citoyenne de seconde zone ou qu'elle doive quelque chose à quelqu'un parce que lui, c'est un homme et elle, c'est une femme. C'est hyper important pour moi, c'est vraiment un combat de vie. Donc si tu veux, je fais exprès, bien évidemment, la majeure partie et encore. Mais j'ai envie de te dire que derrière ces hommes, il y a des femmes. Et souvent, nous sommes dans l'ombre. Souvent, nous sommes dans l'ombre et nous sommes aussi issus, pour beaucoup, de sociétés matriarcales. Autour de la femme, tout se régit. la femme nourrit, la femme élève, etc., etc. Donc la place de la femme, elle est prépondérante. Et c'est pour ça qu'on se doit à chaque fois, même si c'est une blagouille, de remonter le truc. Tu vois, de dire où sont les femmes. Et notre place, elle est prédominante. Et quand on parle de...
On a attendu une peur, j'allais dire à la cuisine.
Moi aussi, j'allais dire
mon fils. À la cuisine.
Mais regarde, Ouri, je te... Regarde, t'as vu, hier, j'étais en train de discuter, parce que moi, je m'occupe de jeunes issus des quartiers, d'ailleurs. Et hier, j'étais en train de dire à ces jeunes-là, je leur disais, voilà, il y a peu, j'étais chez ma sœur, et il y a peu, j'étais chez mes parents. Et je vois qu'en fait, celles qui... Les gardiennes du temple...
Mais c'est ça.
Si nos femmes, nos sœurs, nos tantes ne sont pas là, dans plein de familles, c'est pas nous qui allons gérer.
C'est compliqué.
C'est, par exemple, le fait d'un moment donné, t'as beau faire le mec dehors, avoir 10 000 connexions. Ouais, je connais un tel. Moi, je connais des familles, ou même comme la mienne ou d'autres. C'est à ta sœur que tu demandes.
C'est ça.
Ne serait-ce que pour un prêt aussi. Parce que tu sais qu'en fait, je disais ça à des gens de quartier hier, je disais, celles qui nous aiment le plus, c'est nos mères, nos sœurs, nos tantes. Elles nous aiment à fond. Quitte même parce que des fois, même on se rend ingrat avec elles. Elles nous aiment trop. C'est-à-dire que moi, je suis des jeunes qui ont des parcours compliqués. Je leur dis, vous avez vu que c'est toujours les mêmes qui sont là. Vos potes, là, dehors, là, ils sont pas là. Et que vos mères, vos sœurs, vos tantes, est-ce qu'elles vous aiment à fond? Elles sont. Et c'est elles les gardiennes du temple.
Les parloirs sont bourrés de mamans.
Et même moi-même, je me disais, dans ma propre famille, j'étais là, je rentre chez ma sœur. Et je me suis sorti comme un cocon. Il y a à peine deux jours, j'étais là, je dis, hey, là, je suis chez moi. Il n'y a plus de l'image que tu reflètes dehors de la société, c'est ça. Là, le vrai toi, il est là, tu t'assois dans le salon avec tes sœurs, ta mère. Et ça y est, c'est parti.
Mais est-ce qu'une fois de plus, la réponse, c'est pas l'amour. L'amour de soi, d'abord, l'amour des autres. Comment on transmet l'amour? Et du coup, si on est sous le prisme de l'amour et que l'être humain est amour, bah, en vrai, cette question du consentement, du non, du oui, finalement, elle prend place complètement différemment parce que même dans les échanges de relations, qu'elles soient sexuelles ou pas sexuelles, même amicales, si tu aimes l'autre et que tu lui veux du bien, forcément, le non sera accueilli différemment parce que ton envie, c'est de te faire du bien, mais de faire du bien à l'autre. Et est-ce que le problème, il n'est pas aussi qu'aujourd'hui, on est dans une société, il y avait il n'y a pas longtemps une enquête sur les jeunes français font moins l'amour. Les jeunes en France font moins l'amour qu'il y a 10 ans. Et du coup, ça rejoint peut-être ce que tu disais, Manon, sur le fait que la parole soit libérée, que cette question du consentement, etc. Et que les jeunes, en fait, contrairement à il y a 10 ans, ils ne se sentent plus obligés. Ils ne se sentent peut-être plus obligés. Et ce n'est pas forcément que parce que les jeunes vont mal. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la surconsommation et peut-être que ça en dégoûte ou en tout cas, ça repousse l'échéance pour d'autres. Par peur de tomber dans les mêmes travers.
Moi, ce sondage-là, j'y crois pas.
Ouais, moi non plus, quand je l'ai écouté.
J'y crois pas, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec plein de choses, les rencontres, elles sont facilitées. Et en plus, on est dans une génération où il y a de l'hypersexualisation, il y a de la démocratisation de la sexualité, contrairement à notre époque. Et donc, moi, quand on me dit que la jeunesse d'aujourd'hui fait moins l'amour, franchement, qu'on me donne les.
Mais non, mais peut-être que tu as quelque chose là, peut-être que tu en as quelques-uns qui justement sont hyper sexualisés, beaucoup plus sexualisés, beaucoup plus dans un rythme, une cadence qui est très intensif, mais qu'à la marge, ça en éloigne bien plus. Parce que du coup, en plus, l'éducation sexuelle, mais on en parlera sur un prochain plateau, autour de la pornographie, ça rebute. Tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas envie de subir ce qu'il voit. Or, vu qu'il y a des tabous dans les familles, on en a parlé longuement, et que du coup... comment tu apprends à rentrer dans la sexualité sans parlant avec tes copains, tes copines dans la cour d'école? Mais aujourd'hui, ton copain, ta copine, il te montre une vidéo. Ah, tu te poses des questions, tiens, regarde. Et du coup, peut-être qu'il y en a qui sont attirés, mais qu'il y en a beaucoup aussi qui font des pas en arrière.
Vu tous les célibataires qu'il y a, vu. Non, moi, je suis. Franchement, pour moi, c'est irrationnel ce qu'ils ont dit.
Moi, je pense qu'ils n'y croient pas parce que, en fait, comme les enfants rentrent plutôt dans la sexualité, nos générations ont peut-être l'impression que c'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Parce qu'ils sont rentrés plus jeunes dans la sexualité. Je pense qu'à nos générations, c'était peut-être 15, 16 ans. Et aujourd'hui, dès 13 ans, ils ont connu le premier acte.
Ouais,
mais je pense qu'ils voient des choses tellement violentes que ça doit peut-être se calmer à un moment donné pour rejoindre les chiffres qu'annonce Manon.
Moi, je crois que...
tu en parlais, c'est marrant parce que pareil, c'est une réflexion que j'ai eue à titre...
à titre personnel, avec les applications, il y a clairement de la surconsommation, de dating, etc. Et en fait, je pense que, justement, ce que tu disais, donc cette surconsommation-là, ça peut jouer dans le fait que les jeunes fassent aussi moins l'amour parce qu'on a surconsommé jusqu'à un certain dégoût et après, on n'a plus envie. Enfin,
ouais, mais il y a quand même cette sur... En fait, là où je trouve ça bizarre, c'est que moi, je comprends qu'il puisse avoir un dégoût à un moment donné, le fait de surconsommer, ça devient banal en réalité. C'est-à-dire là où nous, on trouvait quelque chose d'extraordinaire d'avoir une relation avec une fille parce que c'était compliqué d'en avoir, à notre époque en tout cas. Aujourd'hui, c'est facile pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais ils vont quand même multiplier les conquêtes à un moment donné, même s'ils vont s'arrêter. Et donc, ils sont où ces chiffres-là?
Alors, juste avant de rendre l'antenne, j'aimerais quand même qu'on fasse trois petites choses. La première, c'est que, est-ce que vous savez qu'avant 16-17 ans, l'hormone que sécrète la sexualité n'est pas présente dans le corps des jeunes filles? Ça veut dire que, en fait, si elles rentrent en sexualité plus tôt, entre 13 et 16 ans, on va dire, elles sont conscientes qu'elles font du sexe, mais l'hormone du plaisir qui va avec la sexualité n'est pas encore développée. Donc, du coup, si elles rentrent plus tôt dans la sexualité, c'est-à-dire que toutes les filles qui consomment ou qui pratiquent une sexualité entre 13 et 15 ans n'ont pas conscience de ce que c'est le réel plaisir de la sexualité, donc elles l'ont surconsommé à ce moment-là. Et en fait, faudrait savoir, l'enquête sur les jeunes font moins l'amour, elle s'adresse à des jeunes de quel âge? Parce que du coup, si tu commences ton enquête à 16 ans, donc quand elles conscientisent que ce qu'elles ont vécu avant, c'était pas de l'amour. Ça veut dire qu'il y a un autre cheminement qui se passe, c'est que si c'était pas de l'amour, c'était quoi? C'était une agression, c'était quoi en fait? On a joué de mon corps, j'étais pas consciente, mais du coup, quand je rentre dans ma première relation où sécrète ces hormones, je conscientise que tout ce que j'ai fait avant, c'était quoi? Et du coup, une fois que je suis face à ça, bah, comment je rentre dans une vraie sexualité? Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et là, j'ai vu une série il n'y a pas longtemps où c'était une jeune de 13 ans qui avait des relations sexuelles, qui finit aux urgences, et sa vie et son pronostic vital est en jeu. Et en fait, ils se rendent compte que la gamine, elle a été enceinte et que le fœtus s'est baladé dans son corps et l'a rendue malade. Et elle a 13 ans. Et en fait, le médecin, il regarde sa mère, il lui dit, mais du coup, votre fille, elle a des relations sexuelles. Vous devez être surprise de l'apprendre comme ça. Et sa mère répond, non, je sais que ma fille a des relations sexuelles avec son petit copain depuis un an et je suis d'accord avec ça. Et donc, en fait, il y avait une question sur la mise en danger de l'enfant. On dit que le consentement et la majorité sexuelle, ben, y a un vrai sujet. Parce que quand tu acceptes et que tu accompagnes ton enfant à 13 ans, tu ne prends pas conscience que tu peux le mettre potentiellement en danger. Et en fait, avec ce prisme d'accueillir, d'éduquer, d'accompagner nos enfants, de parler, il ne faut pas oublier et banaliser le fait qu'à 13 ans, tu es un enfant. Et à 13 ans, ben, tu ne fais pas du sexe. En fait. Tu peux aimer l'autre, et je rejoins Manon, tu peux faire des premiers bisous, tu peux tenir la main, etc. Mais la sexualité en tant que telle, elle n'est pas réservée aux enfants de 13 ans. Donc, quand tu accompagnes ton enfant à rentrer dans une sexualité à 13 ans, est-ce qu'on se questionne sur notre rôle en tant qu'adulte dans la sexualisation de nos enfants qui sont des enfants? Bouba, et ensuite, Diariatou, je te laisserai nous dire quelle est ton actualité à venir. Et Manon clôturera, parce qu'on a ce partenariat avec le GAMS, sur bah, justement ce que vous faites et où est-ce qu'on peut vous retrouver.
Moi, je crois que... Moi, j'y crois, perso, à ce sondage, même si... Je ne devrais pas forcément y croire, car les sondages sont payés par des gens qui font que bon, ça c'est encore un autre débat. Mais je crois qu'ils sont plus dans l'apparence que l'acte sexuel. Ils sont beaucoup dans l'apparence, beaucoup dans le fait de voilà, se sexualiser à travers des photos et autres. Tout à l'heure, je parlais de conditionnement, et du coup, ben voilà, malheureusement aussi en Afrique, il y a un certain conditionnement, ben, d'où l'excision. Et je pense aussi que, je rebondis sur ce que disait madame tout à l'heure, il y a d'autres formes d'intimité. C'est qu'il y a des gens qui ont, avec le temps, moins d'envie, moins de libido. Donc à un moment donné, moi je dis, il n'y a pas que le sexe dans la vie, à un moment donné. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, tu disais que c'est assez lambda de tenir la main, de caresser, mais en vérité, vrai, lorsqu'on crée une relation profonde avec quelqu'un, au-delà du fait qu'on ait une activité sexuelle ensemble ou un devoir conjugal ou autre, c'est de l'amitié qu'on génère entre nous. C'est une relation profonde. Moi, souvent, ce que je dis à des amis, je leur dis, mais, enfin même à des plus jeunes, je leur dis, mais vous savez que lorsque, si vous tombez sur la bonne, enfin la femme qu'il vous faut et que, déjà, il faut que vous soyez l'homme qui lui, enfin, bon, ça c'est un autre débat encore, mais vous serez des amis en fait.
On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Franchement, c'était passionnant, mais il reste encore une émission sur le consentement, donc on aura le temps encore d'en rediscuter. Diariatou, en très très peu de temps, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actu ? Tu as vraiment 30 secondes.
Oui, alors on a une actu, on a lancé une campagne de sensibilisation pour dire non à la médicalisation, parce qu'aujourd'hui, dans plein de pays, les exuseuses lambda, ils ont posé les couteaux grâce aux campagnes de sensibilisation, mais les médecins le font dans leur cabinet pour détourner cette lutte. Donc nous, on a fait une campagne, on a fait un logo non à la médicalisation de l'excision. On demande aux gens de se prendre en photo avec cette logo et les poster sur les réseaux sociaux et taguer Espoir et Combat des Femmes au pluriel, notre association. On fait un événement le 2 mars à la mairie du 21 pour dénoncer cette médicalisation. On a fait un article qui va être bientôt publié.
Merci beaucoup, Diariatou. Juste, on clôture aussi avec le GAMS, qui est partenaire pendant 3 émissions.
Ouais, et bah, pour notre actualité, du coup, on va faire d'une pierre deux coups parce que ça va être le 2 mars aussi. Mmh. Donc, on sera ensemble. Donc, je vous invite tous et toutes à nous rejoindre.
À la mairie du 20e. Merci à tous. C'était Parentalité. N'hésitez pas à nous rajouter sur Spotify.
N'écoutez pas les sondages.
sur les plateformes de téléchargement. Merci à Mon Paris FM de nous recevoir comme toujours. Merci à vous de vous être déplacés et d'avoir échangé avec nous. Et surtout, à la maison, continuez à débattre. Allez, ciao. Personne ne doit rester à l'arrêt. Bye.